Longitude 180.
La chronique de la mer et des océans de Fréquence Terre, Daniel Krupka.
Bonjour, aujourd'hui nous retrouvons François Sarano, plongeur et responsable du programme scientifique Cachalot de l'association Longitude 181, pour continuer à évoquer la campagne 2020 qui s'est déroulée à l'île Maurice, campagne écourtée en raison du coronavirus et qui pourrait faire craindre un bilan mitigé. François Sarano.
Mitigé cette année, mais beaucoup de temps pour analyser pour la première fois vraiment toute la richesse des informations que nous avons observées, recueillies, filmées sous l'eau.
En fait, les informations qui sont collectées le sont également avant votre arrivée.
Nous avons eu la chance, grâce à René Euset, grâce à Axel Prudhomme, grâce à Hugues Vitry, d'avoir des renseignements sur la période qui a précédé notre séjour et qui a été riche en rencontres. La Belle Bleue et puis MMCO travaillent bien avant que nous arrivions, et ces informations très précises nous permettent aujourd'hui de travailler dans la continuité, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que la richesse de nos informations est liée à cette continuité depuis que nous sommes arrivés, nous, Longitude 181, en 2013, mais aussi grâce aux informations acquises précisément par MMCO et René Euset, la Belle Bleue, jusqu'en 2011, nous avons année après année l'histoire de chacun des personnages du clan de Irène Gueule-Tordue. Et c'est ça qui est formidable, c'est que nous les rencontrons chaque année et parfois des dizaines de fois. Par exemple, Arthur, qui est né le 5 avril 2013, eh bien, nous l'avons déjà rencontré 184 jours depuis sa naissance, ce qui est exceptionnel. Hein, nous l'avons filmé 184 jours déjà. Et quand je dis filmé, c'est pas simplement une petite seconde. Parfois, il reste avec nous pendant une heure, pendant deux heures. Et parfois, on le revoit 10 fois dans une journée. C'est tout à fait remarquable. Ainsi, Germine, c'est 170 fois depuis qu'on l'a vu pour la première fois. Donc, on a vraiment des informations très pointues, précises, qui évoluent dans le temps avec la croissance de ces cachalots, et puis qui nous permettent de dire comment évoluent leurs relations les uns avec les autres, leurs affinités. Ainsi, c'est grâce à cette continuité depuis 2011 que nous pouvons dire aujourd'hui que Germine est vraiment la babysitter du clan de Irène Gueule-Tordue, parce que depuis 2011, on la voit, on l'a vu avec le tout jeune Elliot, avec tache blanche, et on la voit aujourd'hui encore avec Lana, on la voit avec Roméo, et elle est toujours là pour garder la crèche. C'est ça qui est remarquable. Voilà la qualité exceptionnelle de notre travail. C'est parce que Longitude 181, MMCO, La Belle Bleue ont uni leurs efforts pour suivre en continu ce clan depuis maintenant 9 ans.
François Sarano, au vu des résultats obtenus en éthologie, en bioacoustique et en génétique dans le programme Cachalot de Longitude 181, MMCO et La Belle Bleue, que peut-on espérer au niveau de la protection de ces cachalots par rapport au gouvernement mauricien? Et que faut-il faire de plus pour les protéger à terme?
Alors, deux choses. D'abord, j'insisterai quand même sur le fait que nous avons aujourd'hui 3 publications scientifiques qui ont été soumises à différentes très grandes revues et qui sont en relecture. L'une d'entre elles sur les relations de parenté entre les différents cachalots, qui est le résultat obtenu par Justine Girardet des analyses génétiques. L'autre étant celle sur les allaitements. Et nous espérons que la troisième, celle que nous sommes en train d'écrire, qui est simplement sur le catalogue des cartes d'identité et la méthode de travail et de recapture, entre guillemets, de nos cachalots. Recapture, ça veut dire lorsqu'on les revoit et que chacun peut les identifier grâce à ces cartes d'identité, sera rapidement publié. Ça, c'est les résultats scientifiques qui, évidemment, jouent un rôle important dans la crédibilité des informations que nous apportons auprès des autorités. Et les autorités mauriciennes, pour le moment, semblent vouloir limiter considérablement l'approche des cachalots par d'autres bateaux que ceux des scientifiques. Il y a eu plusieurs propositions de réglementation. C'est en train de se mettre en route et il semble que les autorités mauriciennes aient pris à bras-le-corps cette question-là. En revanche, ce qui menace véritablement les cachalots, ce sont les problèmes inhérents au développement mal contrôlé de l'ensemble des pays de l'océan Indien qui, comme chez nous, utilisent du plastique et ces plastiques se retrouvent partout dans l'océan et les cachalots en mangent beaucoup et c'est une menace qui risque de se révéler dans l'avenir lourde, lourde de conséquences. Il n'y a pas de jour où nous ne voyons pas des plastiques dans l'eau. Très souvent, les cachalots jouent avec, les mâchouillent et probablement les avalent. Après ça, le développement du trafic maritime laisse peser une menace considérable et comme l'île Maurice n'est ravitaillée que par le grand port de Port-Louis et que c'est dans cette zone-là que séjournent les cachalots, nous redoutons toujours les collisions. Enfin, nous ne savons pas grand-chose des pollutions chimiques et de l'impact que ça a sur les nouveau-nés qui sont allaités par des mères qui ont stocké pendant des années et des années des polluants qu'elles vont lui transmettre au moment de l'allaitement en grande, grande quantité. Donc ces menaces-là, qui sont des menaces générales, hein, je parle ici de quelque chose qui n'est pas propre à l'île Maurice ni à l'océan Indien, mais qui est mondiale, laisse peser sur ces animaux une menace permanente. Mais on ne réagira que mieux si nous prenons en compte la richesse que les cachalots, le retour des cachalots nous offre.
Merci François pour cet exemple de recherche continue pour une protection active des cachalots.
Merci Daniel.
Et à bientôt.
Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.